La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, reçoit aujourd'hui Nicolas Thirion, professeur ordinaire à l'Université de Liège. Bonjour Nicolas.
Bonjour Magali.
Alors cet épisode est consacré, est inclus, devrais-je dire, dans une série consacrée à un film d'Ettore Scola, Une journée particulière. C'est un film de 1977, mais c'est un film riche. En quoi ce film est-il riche, Nicolas ?
Il est riche à plusieurs égards. Il est d'abord riche en son contenu même, parce qu'effectivement, il aborde de front deux grandes thématiques liées à l'histoire de l'Italie mussolinienne, à savoir d'une part le traitement ou la condition de la femme sous l'Italie mussolinienne, et puis d'autre part la condition, le statut de l'homosexuel sous l'Italie mussolinienne. Mais il est riche, évidemment aussi, en ceci que du point de vue chronologique, Ettore Scola a voulu non seulement peindre un moment historique déterminé, mais a voulu nous dire quelque chose de l'Italie de son époque. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit de la condition de la femme et de l'homosexuel sous l'Italie de Mussolini résonne encore dans l'Italie des années 1970 et, pourrions-nous ajouter, il résonne encore dans l'Italie des années 2020. Et c'est en cela probablement que la richesse du film d'Ettore Scola est inépuisable.
Alors, puisque vous nous parlez de richesse de ce film et que vous le rappelez qu'il est situé dans l'Italie mussolinienne, on va commencer par un premier extrait que nous allons écouter.
Saluto di Berlino e le grandiose dimostrazioni tributate al capo del Reich lungo tutto il percorso in territorio tedesco, il treno del Führer è entrato in Italia. Col saluto festoso delle organizzazioni fasciste schierate lungo i binari, comincia il viaggio trionfale di Hitler verso Roma. Il Führer, con la disciplinata compostezza delle sue formazioni politiche e con la sua schietta anima popolare. Intanto l'urbe ha preparato per il Führer un addobbo nel quale il pasto si unisce alla più maestosa semplicità, fascio ritorio alla croce uncinata, e intrecciano nel vento i colori delle due nazioni. Il duce, accompagnato dal ministro degli esteri Conte Galeazzo Ciano, accoglie Sua Maestà il re imperatore. Annunciato da un colpo di cannone, ecco il treno del Führer, che viene salutato dagli squilli attenti e dalle gravi note dell'inno germanico. Dell'impero.
Que pouvez-vous nous dire de ce premier extrait ?
Alors, dans ce premier extrait, Ettore Scola nous plonge d'emblée dans la grande histoire et en particulier dans la visite que le Führer, Hitler, fait à Mussolini et à l'Italie entre le 3 et le 9 mai 1938. C'est-à-dire à une époque où les deux grandes puissances centrales que sont d'une part au nord l'Allemagne et d'autre part l'Italie sont sous la coupe de pouvoirs autoritaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on retrouve évidemment dans ce que Scola choisit, c'est-à-dire des images d'archives, on retrouve, si vous voulez, d'emblée l'atmosphère de ces années 1930, de la fin des années 30, avec évidemment un commentaire qui est un commentaire hagiographique, faut-il le dire, avec des musiques militaires particulièrement boursouflées, avec des accueils publics hystérique, et donc on a ici, si vous voulez, l'image, mais l'image retranscrite, c'est pas du tout une reconstitution faite par Ettore Scola, ce sont des images d'archives de ce moment, 1938, où les deux grands leaders européens, allemands et italiens, que sont Hitler et Mussolini, se rencontrent pour une visite d'État de 6 jours.
Donc des archives audiovisuelles qu'Ettore Scola a récupérées et qu'il a, dans une certaine mesure, un petit peu accélérées. Hein, puisqu'on voit, on voit un défilé militaire, mais alors vraiment, on parle de pas militaire, là, il est vraiment...
C'est une oie rapide.
C'est ça, c'est une oie rapide. Et puis, on accompagne également le Führer dans sa découverte de la campagne italienne, dans son arrivée à Rome, les bâtiments, etc. C'est un voyage en train dans lequel on est un petit peu en immersion.
Oui, avec une Rome, évidemment, qui... s'abreuve à nouveau au mythe de l'Empire romain, donc on a une visite évidemment non pas des endroits plus raffinés ou plus baroques de la Rome que nous connaissons, mais au contraire les bâtiments les plus massifs, le Colisée par exemple, c'est-à-dire ce qui donne l'impression du retour de l'Italie à une sorte d'empire fantasmé. D'ailleurs, Umberto II est appelé dans le commentaire qui suit, est appelé le roi empereur, puisqu'effectivement l'Italie vient de conquérir un certain nombre de colonies, et il y a là aussi évidemment la trace de ce que l'Italie de Mussolini a été aussi, c'est-à-dire, en plus d'être une dictature, en plus d'être l'allié de Hitler, a été aussi un empire colonial avec toutes les dérives propres à un empire colonial.
Quel est l'intérêt pour le cinéaste de débuter son film par ses archives audiovisuelles ?
Alors à mon sens, l'intérêt principal, effectivement, c'est de nous plonger immédiatement dans cette atmosphère, encore une fois, boursouflée, hystérique, glorificatrice, de nous replonger dans une atmosphère tout à fait différente de celle de notre époque, où effectivement, on lésinait pas sur les moyens à la fois de propagande, mais aussi les moyens des nouvelles technologies, puisqu'effectivement, la télévision était une invention relativement récente, pour nous plonger directement dans ce bruit et cette fureur, en quelque sorte, qu'était l'Italie de Mussolini, et qui va contraster, faut-il le dire, avec l'intimisme, en tout cas un certain intimisme, qui va suivre dans la rencontre entre les deux principaux protagonistes du film. Mais avant d'entrer dans cet intimisme, on est plongé dans cet état totalitaire, puisque c'est quand même Mussolini qui a d'une certaine façon popularisé le mot totalité, état total, état totalitaire. On est plongé directement dans cet état totalitaire qu'est l'Italie de l'époque.
Donc, volonté de situer son film lors de la visite officielle d'Hitler en Italie. Et comment s'opère la bascule entre ces images, ces archives audiovisuelles qui durent environ 8 minutes et l'histoire qui va nous être racontée de cette rencontre improbable entre Antonietta et Gabriele.
Alors effectivement, ce qui va se passer, c'est que après avoir inonder le spectateur, j'allais presque dire écraser le spectateur à la fois par ces images en accéléré et par cette musique et par ces commentaires particulièrement bruyants, Scola nous emmène finalement vers un immeuble romain, typique d'ailleurs de l'époque, donc c'est un immeuble qui a été construit à l'époque et qui reflète l'architecture fasciste. Et cet immeuble est un immeuble immense, et c'est un immeuble aussi où habitent une multitude d'habitants dont la plupart vont, en ce 6 mai 1938, vont se précipiter vers la parade militaire offerte à l'occasion de cette visite de Hitler à Mussolini. Et par conséquent, ce que nous voyons progressivement, à travers notamment une caméra qui se rapproche tout doucement de l'une des fenêtres de cet immeuble immense, c'est précisément de braquer le projecteur d'abord sur des personnages qui, par contraste avec ceux que l'on va voir progressivement quitter l'immeuble, vont être condamnés en ce jour de faste, en ce jour de fête, en ce jour de gloire, condamnés à une solitude qui est leur lot commun de tous les jours.
Oui, vous nous parlez de cet immeuble donc qui a été construit et inauguré par le Duce lui-même en 1933, et dans lequel va pénétrer progressivement cette caméra au petit matin. Hein, on est aux aurores, et donc évidemment tous les appartements sont dans l'obscurité, les lumières vont être allumées les unes après les autres progressivement, et on a une espèce de alors à la fois de par la construction de l'immeuble, mais également du positionnement de la caméra, on a l'impression de quelque chose de panoptique. Tout le monde surveille tout le monde, et la caméra va surveiller, et on va être un peu dans la position du spectateur et du voyeur d'Hitchcock. On surveille ce que font les voisins. À quelle heure se lèvent-ils? Vont-ils bien se vêtir pour aller à cette fameuse parade dont vous nous parlez?
Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'état total est un état intrusif, évidemment. Et à quel point une qualité, ou tout au moins une vertu que l'on ne cesse de glorifier à l'heure actuelle, qui est la vertu de la transparence, la vertu de la totale transparence, est plutôt l'apanage des États totalitaires. Ce sont eux qui estiment avoir le droit de vous regarder, et c'est aussi un État qui conduit les différents sujets à s'auto-espionner ou à s'espionner les uns les autres. Et donc, effectivement, on a vraiment cette idée que dans un état totalitaire, rien de ce que vous faites ne peut être préservé dans le cadre de ce que dans les démocraties libérales, par ailleurs, on appelle le droit à la vie privée. Ce droit à la vie privée n'a pas de sens dans un état totalitaire, puisqu'en vérité, tout le monde peut vous voir et tout le monde doit vous voir.
Et là, le cinéaste le rend bien avec sa caméra, cette intrusion à l'intérieur des appartements.
Et ce qui apparaît comme une intrusion massive et macroscopique à travers cette caméra qui plonge dans la cour de cet immeuble va se reproduire dans une forme microscopique dans un personnage dont nous parlerons sans doute plus tard, qui est aussi un œil et une oreille qui regarde et qui espionne, qui est le personnage de la concierge.
Madame Cécilia.
Madame Cécilia.
Alors, puisque vous nous parlez de Madame Cécilia, nous allons assister à l'entrée dans le film de Madame Cécilia avec le deuxième extrait. Vous parliez de bruit et de fureur, nous avons également là du bruit, des pas, des cris, des conversations, et puis petit à petit, la fin de l'extrait, le silence s'installe. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, cet extrait?
Et c'est ce moment où précisément, la plupart des habitants de l'immeuble vont progressivement quitter cet immeuble dans le chaos ou dans le bruit que nous avons entendu pour se diriger vers cette parade militaire qui constitue un peu comme l'apogée de la visite d'État que Hitler fait à Mussolini. Et donc, en vérité, il n'est pas très étonnant que cette partie, cette scène, soit également une scène de bruit et de fureur, puisque, au fond, et de fureur, pourrait-on dire, a un double sens, si je puis me permettre, un calembour absolument indigne. Mais c'est vraiment cette idée que nous sommes dans un spectacle, et un spectacle baroque ou un spectacle presque grotesque. Quand on voit les images d'archives qui précèdent, on peut manquer de voir presque l'aspect comique de certains passages de ce spectacle. Et donc on est encore dans le bruit de la fureur. Et progressivement, quand les pas s'éloignent, quand tous les individus qui composent l'immeuble ont progressivement quitté celui-ci pour se rendre à la parade, eh bien effectivement, il ne reste plus personne, sauf effectivement deux êtres solitaires, deux êtres sur lesquels précisément après tout ce développement, Scola va braquer le projecteur. Et à côté de ces deux êtres, il y a ce troisième, cet œil ou cette oreille complémentaire qui, malgré la disparition de la plupart des habitants, va jouer ce rôle, là encore, de rappel à l'ordre permanent qui est la concierge.
Alors cette concierge, que fait-elle pendant l'extrait que nous venons d'écouter ?
Alors effectivement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle installe petit à petit, je vois qu'elle s'installe dans la cour.
Pas encore. Elle assiste au départ vers le défilé.
Oui, bien sûr. Alors elle encourage évidemment l'ensemble de ses membres de l'immeuble. Elle leur fait le salut fasciste, puisqu'effectivement elle est représentative d'une fidélité presque aveugle et presque irrationnelle à l'égard du parti.
Et dans ce défilé, enfin dans ce départ vers le défilé, quelle est la composition de la population qui quitte les appartements ?
C'est une population qui est extrêmement bigarrée, mais donc il y a aussi bien des hommes, évidemment, qui descendent de l'immeuble, il y a des enfants, il y a des femmes, parce qu'effectivement, tous étaient censés communier dans l'amour et dans la glorification du Duce et de son invité, illustre. Et donc c'est une foule qui est composée pour l'essentiel de la totalité des membres de l'immeuble. Mais effectivement, parce que chacun de ces individus fait partie de ce grand tout qu'est l'État total, chaque individu se sent presque partie intégrante, organe de ce corps total qu'est l'État dans une vision totalitaire. Et effectivement, les personnes qui restent, en tout cas les deux sur lesquels nous allons braquer le projecteur, sont deux reclus, deux exclus de cette totalité fantasmée qu'est l'État fasciste.
Quand vous parlez de deux exclus, deux êtres solitaires, dans ce deuxième extrait, on ne voit pour l'instant que l'épouse, Antonietta. Mmh. Antonietta qui assiste au départ de son mari, qui a revêtu ses plus beaux atours, et leur ribambelle d'enfants, puisqu'elle a, ils ont 6 enfants.
Ouais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le mari, qui est effectivement typique d'un mâle dominant, dirions-nous aujourd'hui.
Un mâle alpha.
Un mâle alpha, adepte du fascisme, mais un type assez médiocre, un fonctionnaire de second rang dans un ministère. Cet homme lui promet, d'un air aigriard, la possibilité de faire un 7e enfant pour bénéficier de la médaille qui s'attache à la production d'autant d'individus. 7e enfant qui, s'il était un garçon, serait prénommé Adolphe en hommage à cette journée inoubliable qu'est le 6 mai 1938.
Sur ces propos, merci Nicolas Thirion. Nous allons poursuivre sous peu cette exploration d'une journée particulière d'Hetero Scola.